La mille et une nuits, tome 8, chapitre 1. Nouvelles aventures du calife Harun al-Rachid. La sultane Scheherazade ayant achevé l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette, Dinarzade ne manqua pas de l'assurer que cette histoire l'avait beaucoup intéressée. Le sultan des Indes ne put s'empêcher lui-même de lui témoigner le plaisir qu'il avait éprouvé en l'écoutant. « Sire, lui dit alors Scheherazade, le mariage imprévu du roi de Perse Khosrouscha et les événements qui l'ont suivi rappellent deux mariages encore plus singuliers contractés successivement par le fameux calife Harun al-Rachid, à la suite de ces déguisements qu'il aimait et qui lui procurèrent tant d'aventures merveilleuses. Si votre majesté veut me permettre de lui raconter cette histoire, je ne doute pas qu'elle ne l'amuse encore plus que la précédente. » Cette annonce fit sur l'esprit du sultan des Indes, naturellement curieux, l'effet que désirait la sultane. Shahriar sourit au seul nom d'Harun al-Rachid. Il remarqua que le jour n'avait pas encore chassé tout à fait les ténèbres de la nuit, et invita la sultane à commencer sur le champ le récit des aventures du calife Harun. Scheherazade, enchantée de voir que la curiosité du sultan ne se fatiguait point, commença aussitôt l'histoire qu'on va lire, qu'elle continua, selon son usage, sur la fin de la nuit suivante et pendant plusieurs autres nuits consécutives. Nouvelles aventures du calife Harun al-Rachid ou histoire de la petite fille de Khosroès Anushirvan. On célébrait à Bagdad la fête de l'Arafa. Le calife Harun al-Rachid, assis sur son trône, venait de recevoir les hommages des grands de son empire. Peu satisfait de ses démonstrations de respect et de soumission, il voulut voir par lui-même si ses ordres étaient fidèlement exécutés et si les magistrats n'abusaient pas de leur autorité. Il aimait d'ailleurs à soulager les malheureux, à répandre des aumônes, et la circonstance de la fête de l'Arafa l'engageait à remplir lui-même un devoir de religion si cher à son cœur. Dans ce dessein, le calife se tourna vers Djafar, le barmécide, et lui dit « Djafar, je voudrais me déguiser, me promener dans Bagdad, visiter les divers quartiers de la ville, voir ses habitants, entendre leurs discours et distribuer des aumônes aux pauvres et aux malheureux. Tu m'accompagneras et tu auras grand soin que nous ne soyons reconnus de personne. » « Commandeur des croyants, répondit Djafar, je suis prêt à exécuter vos ordres. » Le calife se leva aussitôt. Ils passèrent dans l'intérieur du palais, prirent des habits convenables à la circonstance et n'oublièrent pas de garnir d'argent leurs poches et leurs manches. Ils sortirent ensuite secrètement et commencèrent à parcourir les rues et les places publiques, faisant l'aumône à tous les pauvres qui se trouvaient sur leur chemin. Tandis qu'ils marchaient ainsi au hasard, ils rencontrèrent une femme assise au milieu de la rue et couverte d'un voile épais qui leur tendit la main en disant « Donnez-moi quelque chose, pour l'amour de Dieu !» Le calife, en la regardant, remarqua que son bras et sa main étaient d'une blancheur qui égalait et surpassait même celle du cristal. Il en fut surpris et tira de sa poche une pièce d'or qu'il remit à Djafar pour la lui donner. Le vizir s'approcha d'elle et lui remit la pièce d'or. L'infortunée sentit, en fermant la main, que ce qu'elle tenait était plus gros et plus pesant qu'une obole ou qu'une drachme. Elle regarda dans sa main et vit que c'était une pièce d'or. Aussitôt, elle appela Djafar, qui était déjà passé, en criant « Bon jeune homme, bon jeune homme !» Djafar revint sur ses pas. « Vouliez-vous, lui dit-elle, me faire l'aumône de cette pièce d'or, ou ne me l'avez-vous donnée que par erreur ou dans une autre intention ?» « Ce n'est pas moi qui l'ai donnée, lui répondit Djafar. C'est ce jeune homme qui me l'a remise pour vous. »« Demandez-lui donc, reprit la femme, quelle a été son intention, et faites-la-moi connaître. » »« Le jeune homme n'a eu d'autre intention que celle de vous faire l'aumône, lui dit Djafar après avoir consulté le calife. »« En ce cas, reprit-elle, que Dieu soit sa récompense. » Djafar rendit cette réponse au calife qui lui dit « Demande-lui si elle est mariée, et si elle ne l'est pas, propose-lui de m'épouser. » La femme ayant répondu qu'elle n'était pas mariée, Djafar lui dit « Celui qui vous a donné la pièce d'or voudrait vous épouser. »« Je l'épouserai, reprit-elle, s'il peut me donner la dot et le douairière que je lui demanderai. » Djafar sourit à ces paroles et dit en lui-même « Le calife n'est peut-être pas en état de fournir une dot et un douairière à cet infortuné, et je ne sais où nous pourrons emprunter pour cela de l'argent. » « Quelle est donc, continua tout haut Djafar, la dot que vous désirez et quelle doit être votre douairière ?»« Ma dot, répondit-elle, doit égaler le montant des tributs de la ville d'Ispahan pendant un an, et Mondouarrière le produit annuel de la province du Khorassan. Djafar secoua la tête et porta ces paroles au calife, qui, au grand étonnement de son vizir, parut fort satisfait et lui dit d'annoncer à l'inconnu qu'on acceptait ses conditions. Le grand vizir s'étant acquitté de sa commission, l'inconnu lui demanda quels étaient le rang et la fortune du jeune homme et comment il pourrait remplir les conditions qu'il acceptait. « Le jeune homme, répondit Djafar, est le commandeur des croyants, le calife Haroun al-Rachid. » Aussitôt, l'inconnu arrangea un peu son modeste habillement, leva les mains au ciel, remercia la bonté divine et dit à Djafar qu'elle acceptait pour époux le commandeur des croyants. Le vizir porta cette réponse à son maître, qui prit alors le chemin du palais. Lorsque le calife fut rentré dans son palais, il envoya vers l'inconnu une dame d'un âge mûr, accompagnée de jeunes esclaves. Elles lui dirent qu'elles venaient la chercher de la part du calife, et la conduisirent d'abord au bain, qui était dans l'intérieur du sérail. Elles répandirent sur elle les parfums les plus exquis, la revêtirent d'habits magnifiques, l'ornèrent des bijoux et des joyaux les plus précieux, et n'oublièrent aucune des parures que les plus grandes reines ont coutume de porter. On la mena ensuite dans le palais qui lui était destiné. Il était orné de meubles de toute espèce et fourni de toutes sortes de provisions. Dès qu'elle y fut installée, on en rendit compte au calife, qui envoya chercher les cadis et fit dresser le contrat de mariage. Le soir étant venu, le calife entra dans l'appartement de sa nouvelle épouse, s'assit auprès d'elle, et lui témoigna le désir qu'il avait d'apprendre quelle était sa naissance et pourquoi lui avait demandé une dot et un douairière aussi considérables. « Commandeur des croyants, répondit-elle, vous voyez dans votre esclave une descendante de Khosroès Anushirvan. Les revers de la fortune, les rigueurs du destin m'ont réduite dans l'état où vous m'avez trouvée. Princesse, répliqua le calife, Khosroès Anushirvan, s'il faut en croire quelques historiens, abusant d'abord de son autorité, vexa ses sujets et commit au commencement de son règne de grandes injustices. C'est apparemment à cause de ces injustices, reprit-elle, que sa postérité a été contrainte de demander l'aumône au milieu de la rue. Mais, ajouta le calife, tous les historiens conviennent qu'il changea bientôt de conduite et se montra si humain et si équitable que les animaux de la terre et les oiseaux du ciel ressentirent les effets de sa justice et de sa bonté. C'est encore pour cela, répondit la nouvelle reine, que Dieu a eu pitié de ses descendants et a retiré sa petite fille du milieu de la rue pour la rendre l'épouse du commandeur des croyants. Le calife Haroun al-Rachid était d'un caractère fier et ombragé. Cette illustre origine, qui ne s'était pas attendue à rencontrer, le sang-froid avec lequel la nouvelle reine envisageait son élévation, peut-être la hauteur qu'il crut apercevoir dans ses réponses, tout cela le piqua tout à coup. Il la quitta brusquement et jura de ne pas la revoir avant un an. L'année suivante, le jour de la fête de l'Arafat, le calife se déguisa encore et sortit de son palais accompagné de Djafar, son vizir, et de Mesrour, chef de ses eunuques. Comme il se promenait dans la ville de Bagdad, une boutique attira ses regards par la propreté et l'élégance qui y régnaient. Il vit un jeune homme, occupé à préparer avec beaucoup de soin et d'attention de petits gâteaux qu'il remplissait ensuite d'amandes et de pistaches. Le calife s'arrêta et s'amusa un moment à voir travailler le jeune pâtissier. De retour dans son palais, il envoya un esclave demander au pâtissier, de sa part, 100 gâteaux de la grosseur du poing. L'esclave ne tarda pas à les apporter. Le calife alors s'assit, fit venir du sucre, des pistaches, tout ce qui était nécessaire, se mit à remplir lui-même les gâteaux, et glissa dans chacun une pièce d'or. Il envoya en même temps un esclave à la petite fille de Khosroès pour la prévenir que l'année du serment étant révolue, il viendrait la voir le soir. Il lui faisait demander en même temps ce qui pouvait flatter ses désirs et quel présent il devait lui offrir. La princesse de Perse répondit à l'envoyé du calife qu'elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer et qu'il ne lui manquait absolument rien. Cette réponse ayant été rapportée au calife, il ordonna à l'eunuque de retourner auprès de la princesse et de lui faire une seconde fois la même demande. La princesse, voyant que le calife insistait, le pria de lui envoyer 1000 pièces d'or et une femme âgée, en qui il eut toute confiance, afin qu'elle pût sortir avec elle et distribuer aux pauvres les 1000 pièces d'or. Le calife, content de pouvoir faire quelque chose d'agréable à la princesse, donna sur-le-champ les ordres nécessaires pour la satisfaire. Elle sortit avec la femme qui l'accompagnait et parcourut les rues de Bagdad jusqu'à ce qu'elle eût distribué les 1000 pièces d'or. Ensuite, elle prit le chemin du palais. Il faisait ce jour-là une chaleur excessive. La princesse sentit une soif ardente et le dit à la vieille. Celle-ci lui proposa d'abord d'appeler un porteur d'eau, mais la princesse lui témoigna la répugnance qu'elle avait de boire dans la tasse qui servait à tout le monde et la pria de frapper à la porte d'une maison et d'y demander par grâce un verre d'eau. La vieille, regardant alors autour d'elle, aperçut une belle maison dont la porte était de bois de sandal. Au-dessus pendait une lampe retenue par un cordon de soie. Au-devant était une portière en tapisserie et de chaque côté un banc de marbre. La vieille, ayant dit à la princesse qu'elle allait demander de l'eau dans cette maison, s'avança et frappa doucement à la porte avec le marteau. La porte s'ouvrit et il en sortit un beau jeune homme également habillé. « Mon enfant, lui dit la vieille, ma fille est très altérée. Elle ne veut pas boire de l'eau d'un porteur d'eau. Auriez-vous la bonté de lui en donner ?»« Volontiers, dit le jeune homme en rentrant. » Bientôt après, il apporta une tasse pleine d'eau et la présenta à la vieille. Celle-ci la donna à la princesse, qui eut soin de se tourner en buvant du côté du mur pour ne pas laisser apercevoir son visage, et remit la tasse à la vieille. Elle la rendit au jeune homme en le remerciant et en lui souhaitant toutes sortes de bénédictions. Il y répondit par des vœux pour sa santé. La princesse et la vieille continuèrent leur chemin et rentrèrent dans le palais. Pendant ce temps-là, le calife ayant achevé de garnir tous les petits gâteaux, les avait arrangés sur un grand plat de porcelaine de la Chine. Il appela un esclave et lui ordonna de porter ce plat à la princesse de Perse, en lui disant de sa part que c'était le gage de la paix qu'elle devait faire ce soir avec elle. L'esclave prit le plat, le remit à la vieille, en lui rapportant les paroles du calife, et s'en retourna fort affligé de n'avoir pu manger un seul des gâteaux. Il en avait été fort tenté, mais comme ils étaient assez gros, il avait craint que s'il en prenait un, on ne remarquât la place vide. La princesse, ayant vu le plat de gâteau, commanda à la vieille de le porter au jeune homme qui lui avait donné à boire pour le remercier de sa politesse. La vieille sortit aussitôt pour exécuter cet ordre. Elle eut aussi, chemin faisant, grande envie de goûter des gâteaux, et déjà elle en avait pris un. Mais, voyant le vide qui paraissait, elle craignit qu'on ne s'aperçût de sa gourmandise et le remit à sa place. Elle trouva le jeune homme assis près de la porte de sa maison, le salua et lui dit « Mon enfant, la jeune personne pour qui je vous ai demandé à boire vous envoie ses gâteaux pour vous remercier de la tasse d'eau que vous lui avez donnée. Mettez-les sur le banc, dit le jeune homme en la remerciant. » La vieille s'en étant retournée, le gardien du quartier vint trouver le jeune homme et lui dit « Seigneur Adjeb, c'est aujourd'hui la fête de l'Arafa. Ne me donnerez-vous pas quelque chose pour célébrer ce grand jour et acheter à mes enfants quelques friandises ?»« Prends ce plat de gâteau, lui dit le jeune homme. » Le gardien du quartier, fort satisfait, baisa la main et emporta le plat. La femme du gardien, le voyant entrer avec le plat, s'écria « Oh malheureux, d'où te vient ce plat? L'as-tu dérobé ou enlevé par violence ?»« C'est, dit-il, le seigneur Adjeb, que Dieu conserve ce brave jeune homme, qui me l'a donné. Venez tous manger de ces gâteaux, ils doivent être excellents. »« Es-tu fou ?» dit la femme. « Va plutôt les vendre. Cela vaut au moins 30 à 40 drachmes qui nous serviront à entretenir nos enfants. » « Laisse-nous, dit le mari, nous régaler de ce que Dieu nous envoie. » La femme se mit alors à crier et à pleurer en disant « Nos enfants n'ont ni bonnet ni chausses. » Les femmes ont presque toujours raison. Celle-ci l'emporta enfin. Le mari prit le plat et le remit au crieur public pour le vendre avec les gâteaux. Quelqu'un en offrit d'abord 40 drachmes. Enfin, il monta jusqu'à 80. Un des marchands, considérant alors le plat attentivement, vit ces mots gravés sur le bord, fait par ordre du commandeur des croyants. Il fut étonné et demanda au crieur s'il voulait les faire pendre avec son plat. Le crieur ne comprenant rien à ce discours, le marchand lui dit que ce plat appartenait au commandeur des croyants. Le crieur pensa mourir de peur, reprit le plat, courut au palais et demanda à parler au calife. On le fit entrer et après qu'il se fut prosterné et qu'il eut fait des vœux pour le calife, il lui présenta le plat. Le calife, ayant reconnu le plat et les gâteaux, entra dans une grande colère et dit en lui-même « Quoi ? Je me donne la peine d'arranger moi-même quelque chose pour le faire manger dans l'intérieur de mon sérail et l'on aime mieux le vendre ? Qui t'a donné ce plat ? » dit-il ensuite au crieur. « C'est, répondit celui-ci, le gardien de tel quartier. »« Qu'on me l'amène, dit le calife. » On alla chercher le gardien et on l'amena les mains liées avec une corde. « La méchante femme, disait-il en lui-même, qui n'a pas voulu nous laisser manger ce qui était dans le plat. » Nous serions régalés et il n'en serait rien arrivé de pis. Maintenant, nous n'avons pas goûté un gâteau et nous voilà dans une très mauvaise affaire. » Le calife fit au gardien la même question qu'au crieur, en le menaçant de lui faire couper la tête s'il ne disait la vérité. Il n'eut garde de ne rien déguiser et nomma le seigneur Adjel. Le calife, irrité de plus en plus, en entendant prononcer le nom d'un de ses officiers, ordonna qu'on l'amenât sur le champ, qu'on lui arrachât son turban et qu'on le traînât par terre sur le visage et qu'on mît sa maison au pillage. Les officiers, chargés d'exécuter cet arrêt, se rendirent à la maison du Adjel, frappèrent à la porte, lui signifèrent les ordres du calife et l'emmenèrent au palais. Un des officiers prit son turban, en ôta la mousseline, la lui passa autour du cou et la déchira en lui disant « Alaeddin, telle est la volonté du calife. Il nous avait commandé pareillement de piller ta maison. Notre amitié pour toi nous a empêchés d'exécuter nous-mêmes cet ordre. Nous en avons remis l'exécution à d'autres. Quelque pénible que soit pour nous cette commission, l'honneur nous fait un devoir d'obéir à notre souverain. » Alaeddin, étant devant le calife, se prosterna, fit des vœux pour la conservation de ses jours et demanda humblement par quelle faute il avait mérité un pareil traitement. « Reconnais-tu, lui dit le calife, en lui montrant le gardien qui avait les mains liées derrière le dos, reconnais-tu cet homme ?»« C'est, répondit Alaeddin, le gardien de notre quartier. D'où venait le plat que tu lui as donné ? Reprit le calife. Alaeddin raconte alors exactement de quelle manière et pourquoi ce plat lui avait été apporté par la vieille femme. Ce récit simple et naturel parut apaiser un peu la colère du calife. « Lorsque la jeune personne, dit-il à Alaeddin, bu l'eau que tu apportas pour elle, vis-tu son visage ?»« Commandeur des croyants, répondit Alaeddin troublé, et ne faisant pas attention à ce qu'il disait, je le vis. » À ces mots, le calife, transporté de fureur, ordonna qu'on amenât la princesse de Perse et qu'on leur tranchât la tête à tous les deux. La princesse, se tournant vers Alaeddin, lui dit « Quelle raison vous engage à avancer faussement que vous avez vu mon visage et à me faire périr avec vous ?»« C'est le destin qui nous perd, répondit Alaeddin. Je voulais dire que je n'ai rien vu de votre visage. L'erreur de ma langue cause notre mort. » On fit mettre, selon l'usage observé dans les exécutions, Alaeddin et la princesse sur le tapis de cuir appelé le tapis de sang. On déchira le bord de leurs habits et on leur banda les yeux. L'exécuteur tourna autour d'eux en disant « Le commandeur des croyants ordonne-t-il que je frappe ?»« Frappe !» dit le calife. L'exécuteur tourna une seconde fois en prononçant la même formule à laquelle le calife répondit par le même mot. Enfin, l'exécuteur, en tournant pour la troisième et dernière fois, dit à Alaeddin « Avez-vous quelque chose à me recommander avant que le calife ait prononcé pour la troisième fois votre arrêt ? Car dès qu'il l'aura prononcé, votre tête tombera aussitôt par terre. » « Je voudrais, dit Alaeddin, que vous ôtassiez ce bandeau de dessus mes yeux, afin de voir encore une fois mes amis. Vous ferez ensuite ce que vous voudrez. » Lorsque le bandeau fut ôté, Alaeddin regarda autour de lui et ne vit que des visages consternés. Tous les yeux étaient baissés par respect pour le calife et personne n'eût osé dire un mot. Au milieu de ce silence, le malheureux Alaeddin éleva la voix et dit au calife « Commandeur des croyants, j'ai quelque chose d'important à vous révéler. »« Qu'est-ce que c'est ? » dit le calife. « Différez, dit Alaeddin, notre supplice de 3 jours. Vous verrez les choses du monde les plus extraordinaires. » « J'y consens, dit le calife. Mais si dans 3 jours je ne vois pas ces choses extraordinaires, rien ne pourra vous soustraire à la mort. » En même temps, il ordonna qu'on les conduisît en prison. Le troisième jour, le calife, impatient, résolut d'aller lui-même au-devant des aventures qui l'attendaient. Il choisit un déguisement bizarre, s'affubla d'un habit grossier, entoura sa tête d'un mouchoir épais, prit en main une arquebuse, mit une giberne sur son dos et remplit ses poches d'or et d'argent. Dans cet équipage, il sort du palais et commence à parcourir les rues de Bagdad, espérant voir bientôt les merveilles que lui avait annoncées le Hadjel. Sur les 10 heures du matin, il vit à l'entrée d'un bazar un homme qui disait tout haut « Jamais je n'ai rien vu de si étonnant !» Le calife lui demanda ce qu'il avait vu de si étonnant. « Il y a, dit cet homme, dans ce bazar, une femme qui, depuis le point du jour, récite le Coran avec tant de justesse et de clarté qu'il semble entendre l'ange Gabriel révélant lui-même à Mahomet ses divins préceptes. Malgré cela, personne n'a encore donné la moindre chose à cette pauvre femme. Vous conviendrez que rien n'est plus étonnant. » Le calife, ayant entendu cela, entra dans le bazar et vit une vieille femme qui récitait le Coran et en était déjà aux 2 derniers chapitres. Il fut ravi de la manière dont elle le récitait et s'arrêta pour l'écouter jusqu'à ce qu'elle eût fini. Le calife, voyant alors que personne ne lui donnait rien, mit la main dans sa bourse avec le dessein de lui donner tout ce qu'elle renfermait encore. Mais la vieille s'est enlevée tout à coup, entra dans la boutique d'un marchand et s'assit à côté de lui. Le calife s'approcha, prêta l'oreille et entendit ces mots. « Voulez-vous une jolie personne ?»« Volontiers. Eh bien, venez avec moi. Vous verrez une beauté telle que vous n'en avez jamais vue. » « Quoi donc ?» dit le calife en lui-même. « Cette vieille femme que je prenais pour une femme de bien ferait-elle le plus infâme des métiers ?»« Je ne veux lui rien donner que je ne sache ce que ceci va devenir. » Dans ce dessein, il les suivit de très près. La vieille entra dans sa maison avec le jeune homme. Le calife se glissa derrière eux et se cacha dans un endroit d'où il pouvait tout voir sans être aperçu. La vieille appela sa fille, qui sortit aussitôt d'un cabinet. Le calife fut étonné de voir une beauté à laquelle aucune de ses femmes ne pouvait être comparée. Sa taille était noble et bien proportionnée. Ses yeux noirs, languissants, étaient empreints d'un collier magique plus puissant que tout l'art des Babyloniens. Ses sourcils ressemblaient à des arcs d'où partaient des flèches mortelles. Son nez à la pointe d'une épée, sa bouche au sceau de Salomon, ses lèvres à deux cornalines rouges, ses dents à un double rang de perles. Sa salive était plus douce que le miel, plus fraîche que l'eau la plus pure. Son sein s'élevait sur sa poitrine comme deux grenades, et sa peau paraissait douce comme la soie. Enfin, elle ressemblait à cette belle qu'un poète met au-dessus du soleil et de la lune. Cette jeune personne n'eut pas plutôt vu le jeune homme qui était auprès de sa mère qu'elle rentra précipitamment dans le cabinet, en reprochant à sa mère de l'avoir exposée à la vue d'un inconnu. Celle-ci s'excusa en lui disant que son intention était de la marier. Qu'un homme pouvait voir une fois celle qu'il voulait épouser, que si le mariage n'avait pas lieu, on ne se revoyait plus et qu'il n'y avait aucun mal à cela. Le calife fut satisfait de voir que la vieille n'avait que des intentions honnêtes. « Vous avez vu ma fille, » dit-elle ensuite au marchand. « Vous plaît-elle ? » « Beaucoup, » répondit-il. « Quelle est la dot et le douaire que vous demandez ? » « 4 000 pièces d'or pour la dot, » dit-elle, « et autant pour le douaire. » « Cela est beaucoup, » dit le marchand. Tout mon avoir ne se monte qu'à 4 000 pièces d'or. Si je donne tout, il ne me restera rien. Acceptez 1 000 pièces d'or. J'en dépenserai 1 000 autres pour meubler la maison et faire le trousseau de ma femme, et je ferai valoir le reste dans le commerce. » La vieille femme jura que sans les 4 000 pièces d'or, on n'aurait pas un cheveu de sa fille. Le marchand témoigna alors son chagrin de la modicité de sa fortune, prit congé de la vieille et se disposa à la quitter. Le calife le prévint, sortit devant lui et se mit à l'écart dans la rue jusqu'à ce qu'il se fût éloigné. Le calife rentra ensuite dans la maison et salua humblement la vieille, qui lui demanda en lui rendant légèrement le salut ce qu'il voulait. « Le jeune homme qui sort de chez vous, dit le calife, m'a dit qu'il n'épousait pas votre fille. Je viens vous la demander et vous offrir la somme que vous désirez avoir. » La vieille regarda le calife depuis les pieds jusqu'à la tête et lui répondit « Voleur, car tu en as bien la mine. « Tout ce qui est sur toi ne vaut pas 200 drachmes. Où prendrais-tu 4 000 sequins ?»« Ces propos sont inutiles, dit le calife, et l'apparence est souvent trompeuse. Voulez-vous réellement marier votre fille ? Je suis prête à vous compter la somme. »« Eh bien, dit la vieille, nous t'épouserons en nous comptant les 4 000 sequins. »« J'accepte les conditions, dit le calife en entrant dans l'intérieur de la maison et s'asseyant. « Allez chez le cadi un tel, et dites-lui que le bon Dokani le demande. »« Voleur, reprit la vieille, « puis-je croire que le cadi voudra bien venir pour toi ?»« Ne vous embarrassez pas, dit le calife. Allez, et dites au cadi qu'il apporte des plumes, de l'encre et du papier. » La vieille partit disant en elle-même, « Si le cadi venait avec moi, je pourrais regarder mon prétendu gendre, non comme un voleur ordinaire, mais comme un chef de voleurs. » Arrivée chez le cadi, elle le trouva assis au milieu de plusieurs autres juges et entouré de beaucoup de monde. Elle s'avança d'abord, mais n'osant aller plus loin, elle retourna sur ses pas. « Comment, dit-elle ensuite, je m'en irai sans avoir osé rien dire au cadi ?» Elle s'enhardit, revint à la porte, avança la tête, la retira et recommença plusieurs fois la même chose. Le cadi remarqua ce manège, appela un huissier et lui ordonna de faire entrer cette femme. L'huissier vint la chercher. Elle le suivit, fort contente, et s'approcha du cadi qui lui dit « Que voulez-vous, bonne femme ?»« Seigneur, répondit-elle, « j'ai chez moi un jeune homme qui voudrait que vous vinssiez le trouver. »« Qui est ce jeune homme qui veut que j'aille le trouver et quel est son nom ?»« Il dit, reprit la vieille, qu'il s'appelle le bon Dokani. » À ce nom, qui était le nom secret du calife, et qui n'était connu que des gens en place, le cadi se leva sur le champ et dit à la vieille, « marchait devant moi et me montrait le chemin. Tous ceux qui étaient là eurent beau lui demander où il allait, il ne leur dit autre chose sinon qu'il lui était survenu une affaire, et il partit avec la vieille. Celle-ci réfléchissait chemin faisant et disait en elle-même « Ce pauvre caddie est un bon homme. Mon futur gendre l'a sûrement régalé cette nuit de quelques coups de bâton. Il craint que pareil accident ne lui arrive encore, et voilà pourquoi il s'empresse si fort de venir le trouver. » Le caddie, suivant toujours la vieille, entra dans sa maison, et, reconnaissant le calife, allait se prosterner devant lui. Mais le calife lui fit signe qu'il ne voulait pas être connu. Le caddie le salua donc à la manière ordinaire, s'assit sans façon près de lui, et lui demanda quel sujet lui faisait désirer sa présence. « Je voudrais, dit le calife, épouser la fille de cette femme, et nous avons besoin de vous pour dresser le contrat. » Le cadi, se tournant alors du côté des dames, leur fit une profonde révérence et demanda quelle était la dot et le douairière. « 1000 sequins de dot et autant de douairière, lui dit la vieille. » Le cadi, après s'être assuré du consentement du calife, voulut dresser son acte. Mais s'apercevant qu'il avait oublié du papier, il prit le bas de sa robe et écrivit d'abord les noms du calife, de son père, de son grand-père, qui lui était bien connu. Ensuite, il demanda à la vieille le nom de sa fille, de son père et de son grand-père. La vieille se mit alors à gémir et à se lamenter. « Malheureuse que nous sommes, dit-elle, si son père vivait, ce voleur n'aurait pas osé mettre le pied dans cette maison, à plus forte raison prétendre à la main de ma fille. Mais la mort de mon mari me réduit à cette extrémité. » Dieu prend pitié des infortunés et des orphelins, dit le cadi en écrivant. À chaque nouvelle question, la vieille recommençait à se lamenter de plus belle. Le cadi secouait la tête, avait peine à se contenir, et le calife riait de tout son cœur. Le contrat achevé, le cadi coupa le bas de sa robe où il était écrit et se leva pour s'en aller. Mais ne voulant pas paraître dans les rues avec une robe coupée, il l'ôta et pria la vieille de la donner à quelqu'un à qui elle put encore servir. Comme il sortait, la vieille dit au calife « Est-ce que vous ne donnez rien au cadi, qui est venu lui-même vous trouver, qui a écrit sur le bord de sa robe et a été obligé de l'abandonner ?»« Laissez-le partir, dit le calife, je ne lui donnerai pas une obole. »« Que les voleurs sont avides !» s'écria-t-elle. « Cet homme vient chez nous pour gagner quelque argent et nous le dépouillons. » Le calife se mit encore à rire et dit à la vieille en s'en allant qu'il allait lui apporter les 4000 sequins et des étoffes pour habiller la nouvelle mariée. « Oh, voleur !» reprit encore la vieille, « tu vas donc piller le magasin de quelques pauvres marchands, lui enlever tout son bien et le réduire à la mendicité. » Le calife, de retour dans son palais, se revêtit de ses habits de cérémonie, s'assit sur son trône et commanda qu'on fît venir des mabriers, des menuisiers, des badigeonneurs et des peintres en bâtiment. Quand ils furent arrivés, qu'ils eurent baisé la terre devant lui et fait des vœux pour la durée de son règne, il ordonna qu'on les étendît par terre et qu'on leur donna à chacun 200 coups de bâton. Comme ils criaient grâce et demandaient humblement quelle faute ils avaient commise, il les fit relever et dit au principal d'entre les mabriers « Dans telle rue, à tel endroit, vous trouverez une maison faite de telle manière. Allez-y sur le champ et pavez-la tout entière en marbre. Si ce soir il se trouve seulement un endroit grand comme la main qui ne soit pas encore pavé, ta main droite sera mise à la place. » « Commandeur des croyants, dit-il, nous n'avons pas de marbre. Qu'on en prenne dans mes magasins, dit le calife, et assemblez tous les marbriers de Bagdad. Lorsque la maîtresse de la maison vous demandera qui vous a envoyé, vous répondrez « C'est votre gendre. » Si elle vous demande « Quelle est la profession de mon gendre ? Comment s'appelle-t-il ? » Vous répondrez à la première question « Nous n'en savons rien. » Et à la seconde, « Il se nomme le Bondokan. » Si quelqu'un de vous répond autre chose, il sera mis en croix sur le champ. Le marbrier assembla tous les ouvriers de sa profession, fit charger le marbre et tout ce qui était nécessaire pour leur travail, se rendit à la maison que le calife avait indiquée et y entra avec tous ceux qui l'accompagnaient. La vieille aussitôt se présenta. « Que voulez-vous ? Nous venons pour paver cette maison. Qui vous a envoyé ? Votre gendre. Quelle est la profession de mon gendre ? Nous n'en savons rien. Mais comment s'appelle-t-il ? Le Bondokan. » Mon gendre, dit en elle-même la vieille, n'est qu'un voleur. Mais c'est assurément le premier, le chef, le plus distingué de tous les voleurs. Les marbriers s'étant partagé la besogne, chacun d'eux n'eut à faire qu'une coudée d'ouvrage ou même moins. Le calife avait ordonné des ordres pareils au chef des menuisiers. Celui-ci rassembla tous les autres menuisiers, prit des planches, des clous, et tout ce qui était nécessaire pour faire des portes et autres ouvrages de son état. Ils entrèrent tous dans la maison, dressèrent leurs établis, se partagèrent l'ouvrage et commencèrent à travailler à l'envi l'un de l'autre. La vieille, étonnée, se présente pareillement à eux. « Que voulez-vous ? Nous venons pour arranger cette maison. Qui vous a envoyé ? Votre gendre. Quelle est la profession de mon gendre ? Nous n'en savons rien. Mais comment s'appelle-t-il ? Le bon Doucan. » La vieille, ne sachant où elle en était, et devenue presque folle, disait en elle-même « Mon gendre, le voleur est un homme bien redouté, car tout ceci ne se fait que par la crainte qu'il inspire, et tous ses ouvriers en ont si peur qu'aucun d'eux n'oserait dire quelle est sa profession. » Bientôt après, arrivèrent les badigeonneurs et les peintres avec la chaux, l'huile de chanvre et tout ce qui leur était nécessaire. Les badigeonneurs font éteindre la chaux, dressent leurs échelles et se mettent quatre ou cinq après un mur. Derrière eux travaillent les peintres. L'étonnement de la vieille était si grand qu'elle en perdait la raison. « Mon gendre, dit-elle à sa fille, est obéi bien ponctuellement, et on a une grande frayeur de lui. Sans cela, comment pourrait-il faire venir tant de choses en un jour? Un autre ne le ferait pas exécuter en un an. Quel dommage qu'avec tout cela, ce ne soit qu'un voleur !» Résolue d'interroger ses nouveaux ouvriers, la vieille s'approche des badigeonneurs, leur fait ses questions ordinaires, et obtient toujours les mêmes réponses. Elle s'adresse au peintre, qui ne lui apprennent rien de plus. Enfin, s'attachant à l'un d'eux plus jeune que les autres et le tirant à l'écart. « Mon enfant, lui dit-elle, au nom de Dieu, apprenez-moi le vrai nom et la profession de mon gendre. » « On ne peut parler, lui répondit-il, quand il y va de la vie. » « Allons, dit alors la vieille, je vois clairement que ce n'est qu'un voleur, tout le monde a peur du mal qu'il peut faire. » Sur la fin du jour, les ouvriers ayant fini d'arranger la maison, remirent leurs habits, allèrent au palais et rendirent compte au calife de l'exécution de ses ordres. Le calife, les ayant bien récompensés, fit venir des porteurs. On remplit des paniers de linge, de tapis, de coussins. On met dans l'autre des habits, des étoffes brodées, des bijoux. Le calife ordonne aux porteurs de faire aux questions de la vieille les mêmes réponses qu'il avait prescrites aux ouvriers. La vieille, voyant arriver les porteurs, leur dit « Vous vous trompez, toutes ces choses ne sont pas pour nous. Portez-les à ceux à qui elles appartiennent. » « C'est ici, répondent les porteurs, la maison qu'on a arrangée aujourd'hui, et c'est bien ici que nous envoie votre gendre. » En même temps, ils entrent et déposent leur paquet en disant à la vieille qui soutenait toujours qu'il se trompait. « Ayez soin toujours de parer votre maison. Mettez ses habits et faites habiller tous ceux que vous voudrez, car votre gendre a de tout en abondance et il viendra vous voir cette nuit à l'heure où tout le monde est endormi. » « Les voleurs, dit en elle-même la vieille, sortent toujours la nuit. » Cependant, la vieille va trouver ses voisines et les prie de venir avec elle pour lui aider à ranger la maison et à placer les meubles et les effets qu'elle vient de recevoir. Celles-ci la suivent, autant par curiosité que par envie de lui rendre service. Arrivées devant la maison, elles sont étonnées de la voir blanchie, réparée, et bientôt leurs yeux sont éblouis de la quantité de meubles, d'effets précieux, d'habits, de bijoux qui brillent de tous côtés. « D'où vous viennent toutes ces choses ? » lui dirent-elles. « Et comment cette maison est-elle tout à coup si changée ? » ?»« Hier, ce n'était qu'une masure. Rien n'était blanchi. Point de peinture nulle part, encore moins de marbre. Dormons-nous ? Et tout ceci n'est-il qu'un songe ? Ou bien est-ce l'effet d'un enchantement ?»« Il n'y a point d'illusion, dit la vieille. Tout s'est fait naturellement. C'est mon gendre qui a opéré ces merveilles et qui m'a envoyé tout ce que vous voyez. »« Votre gendre ? Et quel est-il ? « Quand avez-vous donc marié votre fille ?»« Nous n'en avons rien su. »« Tout cela s'est fait aujourd'hui. »« Quel est l'état de votre gendre ? Il faut que ce soit un riche marchand ou un grand seigneur. »« Mon gendre n'est ni marchand ni grand seigneur. C'est un voleur. »« Mais non pas un voleur ordinaire. C'est le chef, le capitaine de tous les voleurs. » À ces mots, les voisines sont saisies de frayeur et disent à la vieille. « Au nom de Dieu, faites-nous la grâce de nous recommander à votre gendre, afin qu'il n'enlève rien de nos maisons. Entre voisins, on doit avoir des égards les uns pour les autres. Ne craignez rien, mon gendre est généreux. Je vous promets que non seulement il ne vous prendra rien, mais il ordonnera aux voleurs qu'il commande de respecter ce qui vous appartient. » Les promesses de la vieille rassurèrent un peu ses voisines, qui lui aidèrent à placer les meubles et à ranger la maison. Lorsqu'elles eurent fini, elles s'occupèrent de la parure de la mariée. On fit d'abord venir une coiffeuse, ensuite on la revêtit d'habits magnifiques et on l'orna de toutes sortes de bijoux. Comme on finissait la toilette de la mariée, on vit arriver des porteurs avec des corbeilles remplies des viandes les plus délicates et des mets les plus recherchés, tels que pigeons, poulets, perdreaux, cailles, gelinottes. Dans d'autres corbeilles était le dessert, composé de pâtes, de dragées, de sucreries, de confitures et autres choses de cette espèce. « Prenez ces mets et ces plats, dirent les porteurs à la vieille. C'est votre gendre qui vous les envoie. Il vous recommande de bien manger et de régaler vos voisins et tous ceux que vous voudrez. »« De grâce, dit la vieille, quel est l'état de mon gendre et comment s'appelle-t-il ? » « Il s'appelle le bon Dokan. Mais nous ne connaissons pas son état, répondent les porteurs en s'en allant. « Assurément, disaient quelques voisines, c'est un voleur. Qu'il soit ce qu'il voudra, disaient les autres, celui qui peut faire tout cela n'a pas son pareil dans Bagdad. » Tout le monde se mit ensuite à table et chacun mangea de bon appétit. On apporta le dessert, auquel on ne fit pas moins d'honneur. On avait eu soin de mettre auparavant de côté pour l'époux quelques-uns des mets les plus délicats et quelques plats de dessert. Cependant, le bruit se répandit dans le quartier que la vieille avait marié sa fille à un voleur, qu'il avait enrichi tout d'un coup par les nombreux présents qu'il lui avait faits. Cette nouvelle, passant de bouche en bouche, parvint bientôt aux oreilles du marchand dont nous avons parlé. Il apprend que la personne qu'il a demandée en mariage a été donnée par sa mère à un voleur, qui leur a fait présent d'une quantité innombrable de meubles, d'habits, de bijoux, qui a fait réparer leur maison, l'a fait blanchir, peindre, paver en marbre, et l'a rendue d'une magnificence qui éblouit les regards. Cet événement piqua vivement le jeune marchand, qui conçut aussitôt le projet d'aller chez le lieutenant de police et de lui promettre une récompense considérable pour l'engager à se saisir du voleur, espérant par ce moyen pouvoir s'emparer lui-même de la jeune personne. Il alla donc sur le champ trouver le lieutenant de police, lui raconta tout ce qui s'était passé, lui promit une bonne récompense et lui dit que le voleur, possédant des richesses immenses, pourrait prendre encore tout ce qu'il voudrait. Le lieutenant de police fut fort content et dit au jeune marchand « Attendez jusqu'à 10 heures du soir, afin que nous trouvions le voleur dans la maison. Je m'y rendrai à cette heure-là, je ferai saisir le voleur et vous vous emparerez de la jeune personne. » Le jeune marchand remercia le lieutenant de police, se retira et revint à l'heure indiquée. Le lieutenant de police venait de monter à cheval avec 400 hommes. Il était accompagné de 4 officiers et précédé de flambeaux et de lanternes. Toutes les voisines s'étaient retirées chez elles. La maison était éclairée par beaucoup de bougies. Et la mère et la fille, bien enfermées, attendaient tranquillement le nouveau mari. Le lieutenant de police frappa rudement à la porte. La vieille se lève, aperçoit de la lumière par les fentes de la porte, regarde en dehors et voit le lieutenant de police et son escouade qui occupaient toute la rue et l'un de ses officiers qui se préparait déjà à enfoncer la porte. Cet homme nommé Chamama était violent, brutal, ou plutôt c'était un vrai diable incarné, toujours prêt à faire le mal et à se porter aux plus grands excès. « Que faisons-nous là ? » disait-il au magistrat. « Et que gagnerons-nous à attendre qu'on nous ouvre la porte ? Il vaut mieux l'enfoncer, fondre sur eux, saisir celui que nous cherchons et nous emparer des effets qui sont dans la maison. » Un autre officier nommé Hassan, d'une figure douce et d'un caractère encore plus doux, aimant à faire le bien et qui semblait placé près du lieutenant de police pour le bonheur de l'humanité, lui dit aussitôt « Ce conseil est mauvais et dangereux. Personne n'a jamais fait aucune plainte contre ces gens-là. Et nous ne savons si l'homme qu'on a dénoncé comme un voleur est réellement un voleur. » Le jeune marchand, mécontent de n'avoir pas épousé la jeune personne, peut avoir fait une dénonciation fausse pour se venger. Ne vous jetez point dans une affaire qui peut avoir pour vous-même les suites les plus fâcheuses et tâchant de tirer doucement tout ceci au clair. Au reste, c'est au commandant à décider de ce qu'on doit faire. » La vieille entendait tous ces discours à travers la porte et tremblait de peur. Elle revint auprès de sa fille et lui apprit que le lieutenant de police frappait à la porte. « Barricadez-la, lui dit la jeune personne effrayée. Peut-être que Dieu nous délivrera de ce danger. » La vieille barricada la porte. On frappa de nouveau avec plus de violence. Elle demanda. « Qui est là ? » ?»« Infâme vieille, lui répondit Chamama. Associé le voleur, ne vois-tu pas que c'est le lieutenant de police et ses gens ? Ouvre la porte à l'instant. » « Nous sommes des femmes, répondit la vieille, et nous n'avons aucun homme avec nous. Nous ne pouvons ouvrir à personne. » « Ouvre la porte, reprit Chamama, d'une voix terrible, ou bien nous allons la mettre en pièces. » La vieille ne répondit rien et vint rejoindre sa fille. Vois, lui dit-elle, ce voleur qui est cause que nous sommes investis, assiégés depuis le commencement de la nuit. S'il paraît, c'en est fait de lui. Fasse le ciel qu'il ne vienne pas ce soir. Ah, si votre père vivait encore, le lieutenant de police, ou tout autre, n'aurait jamais assiégé ainsi notre maison. Comment faire? Disait la jeune personne. Il faut se soumettre au destin. Cependant, le calife, voyant qu'il n'y avait plus personne dans les rues, que la nuit s'avançait et que chacun était retiré chez soi, se déguisa, prit son arquebuse, ceignit son épée et sortit secrètement pour aller trouver sa nouvelle épouse. Arrivé au commencement de la rue, il vit de loin les flambeaux, reconnut le lieutenant de police avec ses gens et le jeune marchand qui était à côté de lui, et entendit la plupart des officiers qui criaient « Brisez la porte, saisissez la vieille et tourmentez-la pour lui faire dire où est le voleur, son gendre. » Le seul Hassan s'efforçait au contraire de contenir cette multitude enragée en leur disant « Braves camarades, respectez les lois que vous devez faire observer et ne précipitez rien. Ce sont des femmes, elles n'ont point d'hommes avec elles. Ne les maltraitez pas. Peut-être l'homme qu'on a dénoncé n'est pas un voleur, et cette affaire peut avoir pour nous des suites fâcheuses. « Hassan, s'écria Shammama, tu n'es pas fait pour accompagner un lieutenant de police, mais plutôt pour rester assis sur le banc des juges. Il ne faut dans notre état que des gens alertes, déterminés, acharnés à leur proie, propres à faire un coup de main et à surprendre le monde. » « Maudit Shammama, disait en lui-même le calife en écoutant ce discours, je te récompenserai comme tu le mérites. » En même temps, il aperçut près de la maison où demeurait la vieille une rue sans issue. Il y entra et vit une grande porte au devant de laquelle était une tapisserie et une lampe suspendue. À côté était assis un eunuque. Le maître de ce palais était un des émirs du calife qui commandait 1000 soldats. Il s'appelait l'émir Younis. C'était un homme dur et féroce qui, lorsqu'il n'avait pas assommé quelqu'un dans sa journée, ne mangeait pas tant il était en colère. L'eunuque, voyant venir le calife, cria après lui et se leva pour le frapper en disant « Où vas-tu, insensé ?» Le calife lui répondit d'un ton ferme et assuré « Infâme valet, que t'importe ?» L'eunuque, déconcerté, crut voir dans l'auguste souverain un lion prêt à se jeter sur lui. Il prit la fuite et courut en tremblant à son maître qui lui dit en le voyant « Malheureux, que t'est-il arrivé ?»« Monseigneur, dit-il, tandis que j'étais assis devant la porte, un homme est entré dans la rue et s'est approché de l'autel. J'ai voulu le frapper, il m'a crié d'une voix de tonnerre « Infâme valet !» J'ai pris la fuite et je viens vous rendre compte. L'émir, en écoutant ce discours, pensa étouffé de colère. « Traiter mes gens d'infâmes, s'écrie-t-il, c'est me faire injure à moi-même. Je vais punir cet insolent. » Aussitôt il se lève, prend une énorme masse d'armes capable de briser une montagne et sort en criant. « Où est l'insolent qui m'insulte en traitant mes gens d'infâmes ?» Le calife, voyant venir Younis, l'appelle par son nom. Younis reconnut aussitôt la voix de son maître, jeta sa masse d'armes et se prosterna par terre. « Lâche, dit le calife, tu es un grand seigneur et tu souffres que le lieutenant de police vienne vexer, tourmenter dans ton voisinage des femmes retirées dans leur maison et qui n'ont point d'homme avec elles. Tu restes tranquillement chez toi et tu n'en sors pas pour repousser et traiter comme il le mérite cet indigne officier. « Commandeur des croyants, répondit Younis, si je n'avais craint de maltraiter un magistrat en qui vous pouviez avoir confiance, cette nuit lui eût été fatale, ainsi qu'à sa troupe. Et si vous l'ordonnez, je vais les charger à l'instant et les mettre tous en pièces. Comment un lieutenant de police et ses archers pourraient-ils me résister ?»« Entrons d'abord chez vous, lui dit le calife. » Younis voulait le faire asseoir. Mais il refusa, et lui dit de le faire monter sur la terrasse. Lorsqu'ils y furent, il lui montra la maison des femmes dont il lui avait parlé, et lui demanda comment il pourrait s'y introduire. Younis lui montra un endroit favorable à son dessein, et alla chercher une échelle qu'il plaça comme il fallait. Le calife passa dessus, franchit l'intervalle qui séparait les deux maisons, et dit à Younis de rentrer, et qu'il l'appellerait quand il aurait besoin de lui. Le calife passa sur la terrasse en marchant doucement et sans faire de bruit, de peur d'effrayer davantage les dames, et s'avança jusqu'à une ouverture qui donnait dans l'intérieur de leur appartement. Il regarde, s'étonne de la magnificence qui règne partout, et croit voir un paradis. L'éclat des dorures et des peintures était encore relevé par celui des lustres et des girandoles. Et la jeune personne, assise sur un trône, revêtue d'habits superbes et couverte de bijoux, ressemblait au soleil qui brille au milieu d'un ciel pur ou la lune dans son plein. Tandis que le calife, émerveillé de la beauté de sa nouvelle épouse, la considérait avec complaisance, la vieille parlait ainsi à sa fille. Qu'allons-nous devenir? Et comment nous débarrasser de ces méchants? Nous sommes des femmes et nous n'avons que Dieu pour appui. Quel malheureux destin nous a envoyé ce voleur! Ah, si votre père vivait! Mais telle est la volonté de Dieu. Ma mère, lui répondit la jeune personne, vous avez beau vous plaindre et m'humilier en traitant ce jeune homme de voleur, puisque Dieu me le donne pour époux, je dois le recevoir de ses mains et me conformer à ses décrets. Dieu veuille, reprit alors la vieille, touchée des sentiments de sa fille, qu'il ne vienne pas cette nuit, car on le saisirait et on lui ferait un mauvais parti à ce pauvre jeune homme. Le calife, ayant entendu cette conversation, ramassa par terre une petite pierre de la grosseur d'un pois, la lança adroitement sur la bougie qui était devant la jeune personne et l'éteignit. Qu'est-ce donc qui a fait éteindre cette bougie, tandis que les autres brûlent si bien, dit la vieille en la rallumant. Comme elle finissait ces mots, le calife lance une seconde pierre et éteint la bougie qui avait servi à rallumer la première. Encore une bougie qui s'éteint, dit la vieille. Cela est étonnant. Peu après, une troisième pierre éteint une troisième bougie. Pour le coup, dit la vieille, il faut que quelque esprit aérien s'amuse à éteindre ici des bougies. Comme elle allait la rallumer, une petite pierre lui tombe sur la main. Elle regarde alors du côté de l'ouverture qui était au plancher et aperçoit son gendre. Voyez par où vient votre époux, dit-elle à sa fille. Il a pris le chemin que prennent ses pareils. C'est toujours par les toits que viennent les voleurs. Un autre serait entré par la porte. Mais Dieu soit loué de ce qu'il est venu par-dessus les toits. Sans cela, il aurait été pris. Puis, s'adressant à son gendre, va-t'en bien vite, lui dit-elle, par où tu es venu, si tu ne veux pas être pris par les scélérats qui assiègent notre maison. Nous ne sommes que des femmes, et nous ne pouvons te sauver. Ouvre-moi toujours la porte de la terrasse, dit le calife en riant, afin que je me rende près de vous et que je voie ce que je dois faire à ces marauds. Malheureux, lui dit la vieille, crois-tu que celui qui assiège notre maison ressemble à ce pauvre cadi qui a eu si peur de toi qu'il a coupé sa robe pour écrire sur le champ ton contrat? Celui qui nous assiège est le lieutenant de police en personne. Crois-tu lui faire faire aussi ce que tu voudras? Ouvrez-moi, vous dis-je, répondit le calife, ou je vais briser la porte. La vieille monta et ouvrit la porte de la terrasse. Le calife étant entré, se mit à côté de son épouse, dit qu'il se sentait appétit, et demanda à se mettre à table. Auras-tu bien le cœur de manger, dit la vieille, tandis que ces scélérats peuvent fondre sur nous à tout moment? Ne craignez rien, dit le calife, et apportez-nous quelque chose. La vieille apporta les mets et les plats de dessert qu'on avait mis à part. Le calife se mit à manger et à causer tranquillement avec elle. Quand le calife fut rassasié et que la table fut ôtée, on entendit redoubler les cris. « Ouvrez la porte ou nous allons l'enfoncer !» Le calife tira alors son anneau, le remit à la vieille et lui dit « Portez cela au lieutenant de police et dites-lui que le maître de cet anneau est chez vous. Si le lieutenant de police vous demande ce que désire le maître de cet anneau, vous lui direz que je voudrais qu'il entrât avec ses quatre principaux officiers et qu'il fût apporter une échelle de quatre échelons, une corde et un faisceau de baguettes. » La vieille, peu contente de la commission, répondit « Le lieutenant de police aura donc aussi peur de vous ou de cet anneau? Je crains, moi, qu'il ne serve de rien, que ces gens-là ne m'écoutent pas, ne se jettent sur moi et ne m'assomment. » « Ne craignez rien, dit le calife, le lieutenant de police ne peut me résister. Si vous avez aussi le secret de vous faire craindre du lieutenant de police et de lui faire exécuter vos volontés, dit la vieille, je veux absolument prendre de vos leçons. Et je ne vous laisserai pas que vous ne m'ayez appris un tour de votre métier, ne serait-ce qu'à voler les femmes. » Le calife se mit à rire et donna son anneau à la vieille. Elle le prit, alla jusqu'à la porte et dit en elle-même « Je ne ferai qu'entr'ouvrir la porte pour lui donner l'anneau. Et s'ils n'écoutent pas ce que j'ai à leur dire de la part du voleur, je refermerai la porte comme elle était. » « Que voulez-vous donc ? » dit-elle en criant bien fort. « Infâme vieille, abominable sorcière, répondit Chamama. Nous voulons saisir le voleur qui est chez toi, lui couper une main et un pied, et tu verras de quelle manière nous te traiterons ensuite. » La vieille, un peu effrayée, leur demanda si quelqu'un d'eux savait lire. « Oui, dit le lieutenant de police en s'avançant. « Voici un cachet, lui dit la vieille. Voyez ce qui est écrit dessus et quel est le nom de celui à qui il appartient. » « Que le diable emporte le cachet et celui à qui il appartient, dit Chamama. » Puis, s'adressant au lieutenant de police, « Aussitôt que la vieille paraîtra, lui dit-il, Frappez-la, jetez-la par terre et faites-nous entrer dans la maison. Nous la pillerons, nous prendrons le voleur et ensuite vous verrez de qui est le cachet. Et s'il appartient à quelqu'un qui nous devons du respect, nous dirons que nous ne l'avons vu que lorsque le mal était fait. Personne ne pourra soutenir le contraire. » En disant cela, Chamama s'approcha de la porte et dit à la vieille, « Donne-moi cet anneau et voyons s'il pourra te sauver. » La vieille entr'ouvrit la porte seulement pour passer la main et lui tendit la bague. Il la prit et la donna au lieutenant de police. Celui-ci, reconnaissant l'anneau du calife Haroun al-Rachid, changea de couleur et trembla de tout son corps. « Qu'as-tu donc ?» lui dit Chamama. Le lieutenant de police, pour toute réponse, lui présenta l'anneau. Il le prit, s'approcha d'un flambeau et ne put s'empêcher, malgré ses emportements, de reconnaître l'anneau du calife. Aussitôt, il tomba à la renverse en criant « Au secours ! Au secours !»« Malheureux !» lui dit le lieutenant de police, « la vengeance divine va bientôt éclater contre toi. Tout ceci est l'effet de tes infâmes procédés et de ta cupidité. Prépare-toi à répondre à nos accusateurs et à te tirer, si tu peux, de ce mauvais pas. » Chamama, revenant à lui, dit à la vieille avec respect. « Que désirez-vous, madame ? » Celle-ci s'aperçut aussitôt qu'on avait peur de son gendre et en fut enchantée. « Celui à qui appartient le cachet, dit-elle, demande une échelle de 4 échelons, une corde, un faisceau de baguettes et le sac qui renferme les autres choses nécessaires pour la punition des coupables. Il demande aussi à voir le lieutenant de police et ses 4 principaux officiers. « Où est, illustre dame, reprit Chamama, celui à qui appartient l'anneau ?»« Il est dans cette maison, dit la vieille. » Le lieutenant de police, s'approchant de la vieille, lui demanda à son tour où était celui à qui appartenait l'anneau et ce qu'il désirait. La vieille lui répéta ce qu'elle venait de dire à Chamama. « Nous sommes prêts à exécuter les ordres de celui à qui appartient cet anneau et nous avons avec nous tous les instruments nécessaires pour punir les coupables, » dit le lieutenant de police en balbutiant et en tremblant comme ceux de sa suite. La vieille entra et dit à son gendre en riant, « Il n'y a pas dans le monde un chef de voleur pareil à vous. Vous faites peur au cadi, vous faites peur au lieutenant de police, vous faites peur à tout le monde. Je veux entrer à votre service et voler les femmes tandis que vous volerez les hommes. Vous me ferez part de vos secrets et je pourrai réussir, car tel maître, tel valet, « tel père, tel fils, » dit le proverbe. Cependant, si dès que ces gens-là sont venus, ils eussent brisé la porte et fussent tombés sur nous, tandis que vous n'étiez pas encore ici, que serions-nous devenus? Mais, grâce à Dieu, vous êtes venus à temps. » Le calife se mit à rire, et sa jeune épouse, assise à ses côtés, se réjouissait de leur délivrance, lorsque le lieutenant de police entra, accompagné de ses 4 principaux officiers, parmi lesquels étaient Chamama et Hassan. Le calife fit avancer ce dernier et lui dit d'appeler l'émir Younis, commandant de 1000 hommes. Celui-ci parut sur le champ. Le calife lui ordonna de châtier le lieutenant de police et Chamama. Younis obéit et s'acquitta de sa commission en homme à qui elle ne déplaisait pas. Le châtiment fut poussé si loin que les malheureux laissèrent leurs ongles sur la place. On les traîna ensuite en prison et Hassan fut revêtu de la charge de lieutenant de police. « Avez-vous jamais vu, dit alors le calife à la vieille, un voleur traiter ainsi un lieutenant de police et ses gens ?»« Non, en vérité, dit la vieille, et il ne me reste qu'une chose à désirer, c'est que Dieu punisse maintenant le calife pour l'injustice qu'il vient de commettre envers nous, injustice sans laquelle, malgré toutes tes prouesses et le merveilleux de tout ceci, tu n'aurais jamais mis le pied dans notre maison. » Le calife, étonné de cette brusque exclamation, dit en lui-même, « Aurais-je commis quelque injustice ?» et donner lieu à cette femme de faire ainsi des imprécations contre moi. Quel mal, dit-il ensuite à la vieille, vous a donc fait le calife? Quel mal! Il a fait piller, ravager notre maison, on a enlevé nos meubles, nos effets, tout ce que nous avions. On ne nous a pas laissé un vêtement, ni de quoi avoir un morceau de pain. Et si Dieu ne vous eût envoyé vers nous, nous serions mortes de faim. Pourquoi le calife vous a-t-il traité de cette manière? Mon fils était un de ces adjèbes. Un jour, qu'il était assis ici, on frappe à la porte, il y va, et voit 2 femmes qui lui demandent de l'eau pour boire. Il leur en donne, et elles s'en vont. Une heure après, une vieille lui apporte un plat de petits gâteaux de la part de la personne à qui il avait donné à boire. Il les accepte. Le gardien du quartier vient à passer et lui demande quelque chose. C'était le jour de la fête de l'Arafa. Mon fils lui donne le plat de petits gâteaux. Une heure après, une troupe de gens viennent de la part du calife, emmènent mon fils et pillent notre maison. Le calife veut savoir comment le plat de petit gâteau est parvenu à mon fils. Il le dit. Le calife lui demande s'il a vu quelqu'un des charmes de la jeune personne. Il voulait dire que non, mais il était troublé et répondit sans y penser qu'il avait vu son visage. Le calife fit venir la jeune personne et ordonna qu'on leur coupât la tête à tous deux. Mais il n'a pas voulu les faire exécuter un jour de fête. Il les a fait conduire en prison. Voilà comment le calife nous a traités. Et sans cette injustice et la perte de mon fils, tu n'aurais jamais épousé ma fille. Le calife, ayant entendu les plaintes de la vieille, reconnut la justice qu'il avait commise et lui dit: Que diriez-vous si j'engageais le calife à faire sortir votre fils de prison, à lui rendre ses biens, à lui donner un emploi plus distingué, et si ce cher fils venait cette nuit même se jeter dans vos bras? La vieille ne put s'empêcher de sourire à l'idée de revoir son fils. Mais reprenant bientôt sa tristesse, elle dit au calife: Tais-toi, malheureux, les fanfaronnades ne sont plus ici de saison. Celui dont je te parle à présent n'est pas comme le lieutenant de police qui a peur de toi et que tu traites comme tu veux. C'est le commandeur des croyants, le grand Haroun al-Rachid, dont le nom est respecté de l'Orient à l'Occident et qui commande à des nombreuses armées. Le moindre esclave de sa cour a plus de puissance que le lieutenant de police. Ne te laisse pas aveugler sur le succès de tes ruses et par la crainte que tu as inspirée aux gens d'une certaine espèce. Ne va pas courir à ta perte et nous laisser sans appui. J'espère pour mon fils que le Tout-Puissant qui l'éprouve voudra bien venir à son secours. » Le calife, touché jusqu'aux larmes du discours de la vieille, se leva pour s'en aller. La vieille et la jeune personne le pressaient de rester et s'efforçaient de le retenir. Mais le calife jura que rien ne pourrait l'empêcher de sortir et s'échappa de leurs mains. Lorsque le calife fut rentré dans son palais, il s'assit sur son trône et fit venir les émirs, les vizirs et les adjèbes. Lorsqu'ils furent assemblés, qu'ils se furent prosternés devant lui et qu'ils eurent fait, selon l'usage, des vœux pour la durée de son empire, il leur dit: J'ai réfléchi à l'affaire d'Aladine, que j'ai fait arrêter et mettre en prison, et je suis étonné qu'aucun de vous n'ait demandé grâce pour lui et ne lui ait donné aucune marque d'attachement et de sensibilité. Commandeur des croyants, répondit un des émirs, notre respect pour vous nous a retenus, mais en ce moment, nous implorons votre miséricorde pour votre esclave. Tous les émirs se découvrirent alors la tête et baissèrent la terre. « Je lui pardonne, dit le calife. Allez le trouver, revêtez-le d'une robe d'honneur et amenez-le ici. » Dès que le calife aperçut Alaïdine, il lui donna une de ses premières charges du palais et lui dit de retourner aussitôt chez lui. On le fit monter sur un cheval du calife, les émirs l'accompagnèrent et le reconduisirent chez lui, en triomphe, aux acclamations d'un peuple nombreux et au bruit de toutes sortes d'instruments. Sa mère et sa sœur, entendant de loin les cris du peuple et le bruit des tambours, ne savaient ce que c'était. Tout à coup, des huissiers frappent à la porte et annoncent la grâce d'Alaïdine et sa nouvelle dignité. Ils demandent en même temps la récompense de cette bonne nouvelle et s'en retournent fort contents de la générosité de ces dames. Alaïdine paraît bientôt lui-même. Sa mère et sa sœur sautent à son cou, le serrent dans leurs bras et versent des larmes de joie. Alaïdine s'assied. Elle leur raconte son aventure. Remarquant ensuite la magnificence de la maison, il en témoigna son étonnement à sa mère. Elle lui apprit que le jour qu'il avait été arrêté, on avait pillé et saccagé la maison, enlevé les marbres, les portes et les meubles, on n'y avait pas laissé la valeur d'une drachme, et qu'elles avaient été 3 jours sans manger. Mais d'où viennent donc toutes ces choses, ces effets, ces meubles, ces vases? Qui a décoré et orné cette maison en si peu de temps? Tout ce que je vois ne serait-il qu'un songe? Ce n'est point un songe, mais une galanterie de mon gendre, qui a fait faire tout cela en un jour. Quel est votre gendre? Quand avez-vous marié ma sœur, et qui a pu l'épouser sans mon consentement? Ne te fâche pas, mon enfant, sans lui nous étions perdus. Quel est l'état de mon beau-frère? Voleur. Alaïdine, à ce mot, pensa étouffée de colère et d'indignation. Quel est donc ce voleur qui ose devenir mon beau-frère? Par le tombeau de mes pères, il faut que je lui coupe la tête. Laisse-la, ce bandit. Il a fait bien autre chose à d'autres qu'à toi, et il ne lui est rien arrivé. Tout ce que tu vois a été pour lui l'ouvrage d'un jour. La mère d'Alaïdine lui raconta ensuite l'aventure du cadi, celle du lieutenant de police, et la punition de ce dernier. Et elle lui montra par terre les traces du sang que la violence des coups avait fait couler. Elle finit en disant: Je me suis plainte devant lui de l'injustice du calife et de ton arrestation. Aussitôt, il a promis d'aller trouver le calife, de te faire mettre en liberté, de te faire revêtir d'une robe d'honneur, de te faire rendre tous ses biens et de t'en faire donner de nouveau. Effectivement, il nous a quittés sur le champ et bientôt après, nous avons eu le bonheur de te revoir. C'est à lui sans doute que nous en sommes redevables. Alaeddin ne comprenait rien à tout cela et son étonnement ne pouvait être plus grand. Quel est le nom de cet homme? Je ne sais. Et toutes les fois que je l'ai demandé aux divers ouvriers qui sont venus ici de sa part, ils m'ont dit qu'ils ne le savaient pas, mais que son surnom était le Blondocagne. À ce nom, Alaeddin comprit que le prétendu voleur n'était autre que le calife. Il se leva tout hors de lui et baisa cette fois la terre. Sa mère se mit à rire et lui dit « Eh quoi, mon fils, ce nom te fait-il aussi perdre l'esprit? Tu disais tout à l'heure que tu lui trancherais la tête. »« Savez-vous bien, répondit Alaeddin, que celui que vous venez de nommer est le commandeur des croyants, le calife Haroun al-Rachid. Et quel autre que lui aurait pu traiter ainsi le lieutenant de police et faire tout ce qu'il a fait? Oh, mon fils, je suis perdu. Le calife ne me le pardonnera pas. Je l'ai toujours traité de voleur. » Tandis qu'il parlait ainsi, le calife entra. Alaeddin se jeta à ses pieds, sa mère s'enfuit et se cacha dans un cabinet. « Où est votre mère ? » dit le calife. « Elle n'ose paraître à vos yeux, » répondit Alaeddin. « Pourquoi donc ? » dit le calife. « Elle n'a rien à craindre. » Et aussitôt il appela lui-même. Elle vint et se prosterna devant le souverain. « Tout à l'heure, lui dit-il en riant, vous vouliez me prendre pour maître et vous charger de voler les femmes, et maintenant vous me fuyez. Ce n'est pas le moyen de faire des progrès. » La vieille, un peu rassurée, demanda pardon au calife, qui fit venir aussitôt un cadi, répudia la princesse de Perse et la maria avec Alaeddin. On célébra en même temps les deux mariages. Tous les émirs et les seigneurs de Bagdad y assistèrent. Les repas et les réjouissances durèrent 3 jours, et l'on distribua aux pauvres des aumônes abondantes. Alaeddin et le calife coulèrent les jours les plus heureux auprès de leurs épouses, et leur bonheur n'eut d'autre terme que celui de leur vie. Scheherazade finissait de raconter l'aventure du calife Haroun al-Rachid avec la petite fille de Khosroès Anushirvan et son mariage avec la sœur d'un de ses chambellans. Le sultan des Indes, que ces aventures avaient beaucoup diverti, demanda aussitôt à la sultane si elle en savait encore quelques autres du même prince. « Si, répondit la sultane, la vie du calife Haroun est pleine d'une multitude d'aventures pareilles, sans parler d'un nombre infini de traits curieux, d'anecdotes piquantes. Toutes ces choses sont présentes à ma mémoire. Mais je désirerais, si vous me le permettez encore, vous raconter maintenant l'histoire d'un jeune marchand de Bagdad et de la dame inconnue, histoire dans laquelle éclate principalement la justice et l'humanité de ce grand prince. » Le sultan des Indes aurait bien voulu entendre sur le champ quelque chose de cette histoire. Mais le jour qui commençait à paraître l'obligea d'attendre à la nuit suivante. Scheherazade commença donc le lendemain en ces termes.